La plage. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talk. Par la place.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, on est à La Place pour la troisième édition de la L2P Convention. Moi je m'appelle Héloïse Roland, je suis coordinatrice des activités pour Art Viva. Art Vivant, Art Durable, c'est le nom de l'association. On est un collectif pour l'écologie dans le spectacle vivant. Voilà, et aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'être invitée par La Place pour modérer cette table ronde. Donc déjà voilà, merci à La Place de nous accueillir aussi bien. Et merci aussi d'avoir donné au sujet de l'écologie une telle place, parce que c'est la première table ronde de la convention. Donc c'est un signal assez fort sur lequel je voulais personnellement vous remercier. Je vais laisser nos intervenantes se présenter. Voilà, si vous pouvez peut-être faire juste un petit tour de table, je vous laisse déjà faire mon travail sitôt. Voilà, votre nom et puis la structure que vous représentez.
Donc bonjour, je suis Olivier Covaux, je suis un des fondateurs de Mangrove Music, qui est un laboratoire de production, d'idées, à impact social et environnemental, musical.
Bonjour à tous, merci Héloïse, merci La Place pour cette invitation. Donc je suis Virginia, je suis administratrice au sein d'une scène de musique actuelle qui s'appelle Le Plan à Ris-Orangis en Essonne. Donc Le Plan, c'est une salle de concert qui appartient à l'agglomération Grand Paris Sud et qui a développé depuis 2017-2018 une démarche écologique et qui a inscrit cette démarche dans le projet artistique et culturel de la structure. Aujourd'hui, on poursuit le chemin qu'on a mis en place depuis 2017-2018 avec les moyens et la marge de manœuvre qu'on a à notre portée.
Et je vais compléter le tour de table, enchanté. Merci beaucoup à La Place, à Art Viva aussi pour cette table ronde. Moi c'est Maxime Thibault, donc je travaille au sein du Centre National de la Musique sur les expertises innovation et transition écologique. Pour ceux qui ne savent pas, le Centre National de la Musique c'est un établissement public assez récent puisqu'il date de 2019, enfin fondé par la loi du 30 octobre 2019 et pour une création en 2020. Avec une fusion d'associations qui a rendu effectif l'ensemble de nos missions différentes, qui a été actée en novembre 2020. Et donc globalement, on travaille sur l'accompagnement des acteurs de la filière, des professionnels, par de l'accompagnement financier, par de la ressource, de la formation, de l'information. Voilà.
Merci à vous. Si vous êtes perspicace, vous aurez vu qu'il y avait un nom supplémentaire dans la liste des intervenants et intervenantes. Et donc, je vais juste la présenter rapidement. Mais Marine Le Bonnois n'a pas pu être présente finalement aujourd'hui. Elle est administratrice générale de l'APOP, qui est un lieu de création à Paris dans le 19e, il me semble. Voilà, je vais essayer de me faire un peu relais aussi de la parole qu'elle voulait porter aujourd'hui, puisque je la connais, elle est par ailleurs présidente d'Art Viva. Voilà, donc je vais essayer de transmettre aussi un petit peu ce qu'elle voulait aborder. Et puis, si vous avez des questions, on prévoit là de faire à peu près une heure de talk et ensuite de vous laisser la parole pour pouvoir échanger un peu dans un format assez convivial. Voilà, je vais commencer peut-être par poser les bases un peu. Alors, on a plein d'acteurs et d'actrices différents. On va parler d'écologie. C'est la thématique de la conférence. Chez Art Viva, on a l'habitude de parler de l'écologie comme d'un nouveau contexte pour le secteur culturel. C'est pas une variable, c'est pas une opinion. C'est vraiment quelque chose un nouveau contexte avec lequel il faut qu'on compose. On a déjà pu le voir, même par exemple cet été, avec certains festivals qui peuvent être annulés ou perturbés. Liés aux conséquences du changement climatique. Il y a aussi les enjeux énergétiques de cet hiver. Voilà. Donc c'est vraiment un nouveau contexte avec lequel il faut qu'on compose et qu'on s'adapte aussi. Donc je voulais qu'aujourd'hui on puisse justement discuter de tout ce que ça implique en termes d'adaptation, en termes de peut-être contribution aussi pour le secteur culturel à cet enjeu écologique. Voilà, donc on va parler des changements que ça implique, à la fois dans les pratiques, aussi dans les comportements, dans les dynamiques de relations entre les structures. Et puis peut-être même, on va pouvoir aborder la question des systèmes et de, voilà, pour porter aussi la discussion à un niveau plus théorique, peut-être presque philosophique, dépasser un peu l'aspect concret, même si on va partir de là. Donc je vais commencer en vous demandant et en me tournant vers toi, Virginia, puisque tu représentes le plan, donc un lieu et avec une démarche écologique engagée depuis un certain moment. Je voulais déjà revenir un peu aux bases pour savoir comment est-ce que c'est lancé la démarche écologique du plan, et puis voilà, comment est-ce qu'on initie comme ça une démarche au sein d'un lieu.
Donc au niveau de la structure du plan, l'idée donc elle a commencé à être dans nos esprits à partir de 2017, et en fait cette période-là, c'était le moment où on réécrivait ce qu'on appelle un projet artistique et culturel, hein, dans une structure de diffusion. Et ce projet artistique et culturel, l'idée était vraiment de traduire à l'écrit les axes de notre structure basé sur les valeurs de l'équipe. Donc, il y a eu des brainstorming en équipe pour savoir quelles sont nos valeurs, quels sont les axes que l'on souhaite défendre dans notre structure. Et il y a un membre de cette équipe qui a vraiment été moteur pour apporter le sujet de l'écologie, de la démarche éco-responsable dans une salle de concert. Cette personne, elle a réellement réussi à sensibiliser, à expliquer le pourquoi cet axe était important et pouvait être défendu dans une salle de diffusion de concert. Et elle a donc développé un axe et proposé des objectifs avec des actions concrètes qu'on pouvait mettre en place à court, moyen, long terme, voire très long terme parfois. Et je pense que ça a été vraiment la base pour nous, cet écrit, avec ses objectifs, avec ses actions en face. Ça a impulsé vraiment une dynamique dans l'équipe. Tout le monde a adhéré et du coup, on a écrit noir sur blanc dans notre projet la volonté de défendre une démarche, une dynamique écologique, éco-responsable, et de se poser du coup autour de nos projets toujours la question de comment on peut faire pour réduire l'impact que l'on a autour de notre événement et rester dans une dynamique intéressante sur l'aspect écologique. Et comme je le disais un petit peu en introduction, ça reste malgré tout avec nos contraintes, nos moyens qu'on a. Mais du coup, c'est à chaque moment, chaque projet, l'idée de se questionner de comment on peut faire pour faire moins pire.
Merci pour ton retour. Je trouvais ça intéressant, et notamment de le mettre en regard avec l'expérience de Marine, qui travaille aussi du coup dans un lieu de création. C'est vraiment une histoire de personne. Enfin, en tout cas, du coup, c'est, dans ton cas, ça se confirme aussi. Et voilà. Et du côté de la pop, c'est aussi la même chose. Ça a été impulsé par des personnes qui étaient sensibilisées et qui du coup ont décidé d'embarquer l'ensemble de l'équipe. Mais donc, ça reste vraiment une question de sensibilité, pardon. Personnel à la base. Est-ce que toi, Olivier, aussi, à la base de la création de Mangrove Music, il y a un engagement personnel avant toute chose ?
Oui, il y a un engagement. Enfin, moi, je travaillais beaucoup sur l'impact du son. Je dirais, j'ai un centre de recherche sur l'impact du son et une société d'identité sonore. Et c'est vrai que la musique a plein de... On parle d'un langage des émotions, mais c'est un impact cognitif, physiologique. Il y a des réponses affectives. Et surtout, je me suis rendu compte qu'on était à un moment de la société qui était très particulier. D'ailleurs, je pense que l'écologie ne fait pas bouger beaucoup les foules. Ce n'est pas très glamour. Ça génère beaucoup de fantasmes, beaucoup de peur, etc. Et je pense on a vraiment été créé pour ça. C'est pour développer des imaginaires et des récits qui soient incarnés par des projets fertiles, enfin qui rendent d'une idée concrète du monde dans lequel on vit, mais à travers, je dirais, des projets concrets. Donc en fait, notre idée, c'est de développer un langage avec la musique et de fédérer dans un espace pour repenser le monde des artistes en les nourrissant. Après, il y a ceux qui ont envie de le faire, puis ceux qui font leur propre truc par ailleurs.
Okay. Mais merci. Et donc, la notion d'engagement, en tout cas, qui, voilà, de ton engagement, l'engagement des personnes avec lesquelles tu travaillais et les différentes manières, en fait, finalement, qu'il y a de s'engager sur ce sujet-là. Je me demandais justement, Maxime, en tant que, enfin, à la place, en tout cas, du CNM, et peut-être avec la vision un peu plus globale que tu peux avoir sur voilà, le territoire, enfin, en tout cas, les acteurs et les actrices de la musique. Quelle est ta perception, toi, de cette thématique? Là, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un réel changement, un engagement, enfin, est-ce que tu vois cet engagement qui se développe, quelle forme ça prend, voilà, est-ce que tu pourrais nous faire ton retour là-dessus?
Déjà, pour replacer en effet la loi du 30 octobre 2019 dont je vous parlais brièvement tout à l'heure en introduction, elle porte dans la ligne à une, et ça c'est une nouveauté, c'est assez unique pour la création d'un établissement public. Dans l'article 1er de cette loi, il y a une mention de la mission du CNM de favoriser à ce que le secteur contribue à la protection de l'environnement et au développement durable d'une filière. Donc en gros, dans notre loi, on va dire créatrice, celle qui nous fixe nos missions, qui nous fixe nos objectifs, il y a cette mission-là. Donc d'un point de vue institutionnel, le ministère, les parlementaires nous délèguent un peu ce rôle d'essayer d'accompagner la filière de la musique. Et quand je dis musique, c'est pas que la musique, c'est les variétés aussi, puisqu'on accompagne les cabarets, l'humour, la magie notamment, le cirque. Donc on a toutes ces différentes esthétiques, ces différentes spécialités, ces différentes activités culturelles. Et pour répondre à ta question, parce que là j'ai fait un pas de côté, donc je vais reprendre le fil de ta question.
Tu peux faire tous les pas de côté que tu veux.
Merci. Oui, il y a un changement qui a été amorcé, qui est un changement amorcé, il faut qu'il y ait eu des prémices avant. Et des prémices avant, il y en a eu pas mal. Donc le changement qui a été amorcé, c'était plutôt à partir de 2020. Ça coïncide aussi en partie avec la création d'Arviva et d'un tout un nouvel écosystème d'acteurs qui est né pour s'occuper de ces questions. Et quand je dis un écosystème d'acteurs, c'est vraiment des professionnels qui se retrouvent. C'est ça un peu la création d'Arviva, c'est des professionnels qui se retrouvent ensemble pour « Ok, on a un problème, il faut qu'on réduise notre impact, il faut qu'on change nos pratiques, comment on va faire, comment on peut faire en sorte que l'ensemble du secteur se prenne en charge cette question. » Donc je situerai ce moment vers 2020 de basculement. Néanmoins, les prémices, ça existait avant. Le collectif des festivals en Bretagne existe depuis bien longtemps, depuis 2005. Le COFIS, qui opère sur les festivals en région PACA, idem, même s'il a été structuré plus récemment, en fait, ce collectif, de manière informelle, réalisait déjà nombreuses missions auparavant sous l'égide notamment de Véronique Fermé, qui était aussi sur un festival de musique à Aix. Donc, il y a eu plein d'initiatives. On sent qu'il y a une vraie démarche ces dernières années. On le voit aussi au nombre de conférences, au nombre d'événements qui vont traiter du sujet, soit au sein d'une programmation plus large, donc par exemple le MAMA Festival ou le réseau MAP, qui avait organisé des conférences, il me semble, dans le cadre des girafes. Et on le voit aussi sur des conférences créées de toutes pièces. Donc là, je reprends, je ne fais pas la pub d'Arviva, mais c'est vrai qu'Arviva a créé deux fois un événement de rencontre spécifiquement sur ce sujet-là. Le ministère s'en est emparé aussi. Ce qu'on appelle, là, je vais dire des acronymes, pas forcément TG, mais la Direction Générale de la Création Artistique, notamment, avait programmé sur Willow Green l'an dernier une journée de conférence sur ces questions et ces enjeux, à l'échelle de la culture en général. On sait que le ministère de la Culture est en train d'aboutir sur une feuille de route sur la transition écologique. Donc il y a une coalition d'acteurs différents, institutionnels, professionnels, même des artistes, avec beaucoup d'artistes venus d'horizons divers, qui sont en train de se projeter. Parce qu'en fait, aussi, on a plus forcément le choix.
C'est ça, il y a aussi un contexte qui est peut-être plus visible. Enfin, voilà, on sait que les conséquences de cet été déjà sur la réalisation citoyenne de l'enjeu climatique et effectivement sont déjà avérées. Donc, ok, merci pour ce petit tour d'horizon, en tout cas de la place et des différentes formes que prend l'engagement écologique dans le secteur. Je voudrais rester un petit peu dans le concret et le retour d'expérience et je me retourne vers toi, Virginia. On sait, en tout cas, moi, pour travailler à Arviva, c'est la question de l'impact des structures culturelles, de l'empreinte environnementale, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On en entend beaucoup parler et il y a différents postes qui sont identifiés comme pouvant avoir des impacts environnementaux, la restauration, la mobilité, les achats, etc. Du coup, je voulais te questionner un petit peu déjà sur vous concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place au plan, que tu nous présentes un petit peu peut-être les endroits où vous avez réussi à agir et puis les autres où vous aimeriez peut-être encore, vous avez d'autres améliorations à apporter.
Alors du coup, nous, au niveau du plan, je pense que l'endroit qu'on a le plus développé, c'est toute la démarche autour de l'accueil des artistes. La première démarche qu'on a eue, ça a été déjà d'arrêter d'acheter de la vaisselle jetable. On a acheté de la vaisselle en dur et on a été dans une démarche pour acheter de la vaisselle en dur d'aller l'acheter dans des recycleries et chez Emmaüs. Donc en plus pour être dans un vrai circuit de réemploi et pas aller créer une nouvelle dépendance auprès de magasins qui vont vendre du neuf. Donc je pense que ça a été la première un petit peu révolution de notre côté au niveau de l'accueil des artistes, ce qui amène toute une gymnastique autour de ça, parce que du coup la vaisselle, on ne fait pas juste de la mettre dans une poubelle, il va falloir la laver, il va falloir la ranger, donc avoir les espaces aussi de rangement. La suppression du jetable. Ensuite on a mis en place des gourdes. Donc ça, on a acheté un certain nombre de gourdes. Et donc tous les artistes qui viennent au plan pour des résidences d'artistes ou pour des concerts, on va leur fournir des gourdes. Donc on va leur prêter les gourdes et ils vont pouvoir en toute autonomie les remplir dans des fontaines à eau. Donc avec le choix de la température de l'eau et qui est directement filtrée. C'est pas l'eau du robinet qu'on leur propose de boire. Et du coup, on a vraiment supprimé tout le plastique, toutes les bouteilles en plastique de notre côté. Et les artistes qui vont du coup monter sur scène ont vraiment une gourde avec eux. Alors à savoir quand même que maintenant, on a quand même de plus en plus de personnes qui se présentent directement avec leur gourde. Mais lorsqu'ils n'ont pas forcément encore mis ça dans leur tournée, et ben chez nous, ils n'auront pas de bouteilles en plastique. Sur scène, ils auront des gourdes. Et dans les loges, ils auront des verres en verre avec des carafes d'eau également remplies grâce aux fontaines à eau. Dans les démarches suivantes qu'on a mis en place, on a vraiment développé un partenariat avec une supérette qui est une coopérative bio chez qui on va vraiment acheter tout notre catering dans ce petit magasin. On utilise ce magasin aussi du coup pour des achats en vrac. On a essayé de supprimer un maximum le suremballage aussi. On a vraiment cette démarche du coup quand on reçoit les riders des artistes, donc les demandes qu'ils ont autour de l'accueil dans notre structure, où on va en fait négocier. Donc on va négocier le fait que non, il n'y aura pas de bouteille d'eau chez nous puisqu'on est dans cette démarche éco-responsable, et que non, il n'y aura pas la marque de gâteau demandée achetée dans un supermarché lambda. Nous, on va avoir des équivalents. Donc on va proposer un équivalent de petit gâteau du coup acheté en vrac et qui est fourni par une boulangerie bio locale et donc fourni par notre surpérette, ce qui nous permet quand même d'éviter d'avoir 15 magasins différents chez qui aller. Donc on achète notre vrac dans ce supermarché et on va également y acheter nos boissons. Et donc, quand on vient au plan également, on ne va pas retrouver les marques de soda qu'on a l'habitude d'avoir en plus dans des bouteilles en plastique. On va avoir des équivalents qui viennent de cette supérette, des équivalents bio du coup, et qui sont conditionnés majoritairement dans des bouteilles en verre. Donc du coup, c'est ce qu'on propose aux artistes. mais ces boissons aussi qui sont des équivalents, c'est ce qu'on propose également au public. Donc c'est là où on va faire également un choix de propositions un petit peu de qualité au niveau des boissons auprès de nos publics et donc au niveau des bars qui sont au plan. Ce qu'on a mis également très rapidement en place, c'est les éco-cups consignés. Donc ça, je pense que c'est quasiment dès l'ouverture du plan qu'on a mis ça en place, de façon donc à ne plus avoir de vaisselle jetable, mais surtout que les gens puissent consommer dans des verres qui ne sont pas en verre et rentrer quand même dans les salles de concert. Ce qui se passe, c'est qu'avec plusieurs années d'expérience, du coup, maintenant, on s'est aperçu que l'éco-cup qui est floqué avec le nom de la salle, en fait, est devenu un outil de merchandising, un petit peu un outil souvenir. Et du coup, nous, ce n'était pas du tout notre objectif. Nous, l'objectif, c'était vraiment d'acheter des éco-cups, que les gens puissent être servis au bar dans ces éco-cups et nous les ramènent et qu'on puisse les nettoyer, les réutiliser, sauf qu'on s'est aperçu que notamment les 50 centilitres disparaissent extrêmement rapidement et du coup que les gens repartent avec. Et on a fait, on a pris la décision, on a eu le passage du coup là dernièrement d'arrêter de floquer nos éco-cups de façon à ce que ça donne beaucoup moins envie de repartir avec à la maison, même si on sait qu'il y en a quelques-unes qui seront cassées, qui au bout d'un moment le lavage il faut les jeter en les recyclant du coup un maximum. Et on sait qu'on va devoir à un moment donné en racheter, mais je pense dans une temporalité beaucoup moins rapide. Là, on est sur de l'achat tous les ans, en fait, pour pouvoir renouveler notre stock, ce qui devenait vraiment ingérable d'un point de vue aussi financier. Dans notre démarche, ce n'était pas du tout l'objectif de mettre en place cela. On a aussi, du coup, tout autour de l'accueil des artistes, donc vraiment un tri des déchets. Avec une grosse signalisation là-dessus. On a mis en place en interne les poubelles qui vont bien avec les indications qui vont bien en anglais et en français pour les artistes internationaux qu'on accueille. C'est déjà pas mal.
Tout à fait, effectivement. Je me demandais s'il y avait peut-être d'autres leviers que tu identifiais et sur lesquels vous n'arrivez pas encore, ou en tout cas si peut-être toi aussi tu identifies les freins que vous pouvez avoir pour mettre en place encore certaines choses. Je pensais à quand on regarde, on a assez peu encore de données sur l'impact carbone. Alors là, j'avais parlé vraiment du carbone, mais des structures culturelles, mais on sait qu'il y a. C'est dans toutes les études qu'on a, en tout cas, ressort quand même la question de la mobilité, des publics en premier lieu, aussi un petit peu des artistes. Est-ce que vous, il y a des choses qui sont possibles de mettre en place? Vous êtes, tu peux peut-être rappeler aussi où est-ce que vous êtes situé, parce que ça a un impact.
Donc effectivement, au niveau de la mobilité, c'est quelque chose qu'on a commencé à travailler. Nous, on est donc en Essonne, RERD. C'est un petit peu loin du coup du centre de Paris, mais on a une gare RER à 200 mètres à pied. On essaye un maximum du coup sur nos événements de faire en fonction des horaires de RER, de façon à ce que les gens puissent venir et repartir en RER. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout l'habitude qui est prise. On a essayé de mettre des choses en place. Je ne vais pas dire le contraire. On a essayé de mettre notamment en place une plateforme de covoiturage. On a essayé également de mettre en place du covoiturage le soir du concert avec des panneaux « je recherche »,« je propose » et des échanges de numéros de téléphone. Je ne vais pas vous cacher que c'est quelque chose qui n'est plus suivi. Qu'on a un petit peu arrêté au moment de la crise Covid. Je pense que malheureusement, ça a été un petit peu un gros frein pour beaucoup de choses. J'espère que c'est quelque chose qu'on remettra très rapidement en place, en proposition autour de nos événements. On essaye un maximum aussi de favoriser les déplacements, notamment en vélo. On a un un garage à vélo assez important, dans l'idée notamment pour les Rissois et Rissoises de venir en vélo plutôt que de venir en bus ou en RER, parce que finalement on n'est pas très loin du centre-ville de Riss, on s'aperçoit qu'il n'est pas vraiment utilisé. Du coup, on a des pistes de réflexion de peut-être mettre en place des box plutôt que juste des endroits où on va amener notre canard et ranger notre vélo à cet endroit-là, de façon à ce que le vélo soit plus protégé. C'est une piste qu'on va peut-être creuser. L'idéal, ça serait vraiment qu'on puisse avoir le temps et les moyens en fait, de mettre en place une vraie analyse de terrain, de la pratique, de la mobilité, en tout cas des publics, parce que c'est là où on arriverait à avoir plus de données. C'est un peu compliqué aujourd'hui. Je pense qu'on manque un tout petit peu de moyens humains pour réussir à mettre ça en place. Et par contre, l'un des freins sur lequel on n'a vraiment pas du tout la main, c'est la mobilité des artistes. On a beau communiquer sur le fait qu'on a un RER à 200 mètres à pied, on s'aperçoit qu'ils ne viennent jamais en transport en commun. Pourtant, on est à quelques stations de RER de Paris.
Merci pour ça. Donc encore plein de pistes peut-être à creuser, et peut-être que notre discussion aussi plantera des petites graines pour la suite. Je me permets en tout cas de témoigner peut-être de l'expérience de Marine sur cette question de la mobilité des artistes. Depuis la Pop, donc un lieu de création, je sais qu'ils ont mis en place donc toute une charte RSE assez globale, et notamment sur la question de la mobilité des artistes, ils ont imposé aux artistes qu'ils accueillaient un certain seuil, alors c'est un nombre de kilomètres, je ne l'ai plus en tête, mais au-delà, en dessous duquel il ne remboursait pas l'avion. Donc, c'est-à-dire que si un artiste situé à, mettons, je vais dire 300 km, mais il me semble que c'est plus, décide de venir en avion, de toute façon, il ne sera pas pris en charge par la Pop. Donc ça c'est le genre d'initiative qui peut être, pour vous dans le public ou même ici, qui nécessite de l'explication, de la pédagogie, mais en fait qui se passe plutôt bien. Et dans l'ensemble, ce que Marine me disait en préparation de cette table ronde, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème. Il y a parfois besoin de discuter et de trouver des alternatives, mais en général, c'est plutôt bien compris de la part des artistes. Donc c'était une piste d'action. Et pour continuer sur la mobilité, je me tourne vers toi, Maxime. Est-ce que, effectivement, on a identifié qu'il peut y avoir des freins. Enfin, est-ce que, à la place du CNM, comment vous abordez ces questions-là ? Est-ce qu'il y a des possibilités d'accompagnement ? Est-ce qu'il y a des initiatives un peu originales ou intéressantes aussi que tu aurais en tête sur ces questions-là ? En premier sur la mobilité.
La mobilité, c'est un enjeu pour les événements en général. Que ce soit dans un lieu de diffusion particulier, donc comme une salle, comme du coup la Pop, comme d'autres salles en fait. Mais c'est pas que les salles, ça va être les festivals. Et comme on le disait tout à l'heure, il y a deux types de mobilité, il y a même trois en fait. Il y a mobilité des équipes, mobilité donc des festivaliers ou des spectateurs, et enfin la mobilité des artistes. Avec chacune son lot de complexité. Donc évidemment que nous, c'est quelque chose sur lequel on a pointé notre attention. Ça a été pointé aussi parce que la mobilité a été identifiée comme un enjeu majeur dans le rapport qui a fait long feu et qui a fait beaucoup de bruit du Shift Project sur décarbonons la culture, sur un des enjeux principaux de l'impact carbone d'une salle ou d'un festival. Alors avec des nuances. Et donc... cet enjeu-là, il fait partie d'un enjeu plus global qui est aussi, nous, une logique qu'on va avoir et qu'on va essayer de porter par le CNM, c'est essayer de décarboner l'industrie, décarboner tout ça et utiliser le moins de ressources possible. Et donc, en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'on s'inscrive dans une trajectoire qui est la trajectoire des accords de Paris. Là, je reprends un peu d'auteur, mais après, je réatterrirai vers des choses plus concrètes. Mais donc, pour entrer dans cette trajectoire, c'est-à-dire qu'on nous fixe en 2030 puis 2050 des objectifs précis de décarbonation. On a eu la chance en France d'avoir l'ADEME, qui est l'agence de l'énergie qui est affiliée au, enfin qui est pas affiliée mais qui est un établissement qui est relié au ministère de la Transition écologique. L'ADEME a fait des scénarios prospectifs pour montrer comment on pourrait arriver à aller vers 2030, vers 2050. Elle n'a pas fait un scénario prospectif directement sur la culture. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec du coup avec un groupe de travail, on va mener en 2023 une réflexion pour arriver sur une étude prospective sur comment l'industrie culturelle et la musique en particulier et le secteur des variétés peut s'adapter dans les années à venir pour répondre à ces enjeux, notamment sur la mobilité. L'un des premiers points pour arriver à ce futur qui est désirable, c'est d'avoir de la donnée, d'avoir de la récolte de données. Et ce que tu pointais, c'est qu'il y avait en effet un manque de données sur la mobilité des publics pour beaucoup de salles. Il y a une super initiative qui est menée et qu'on a soutenue en tant que, via notre dispositif qui s'intitule le soutien à la transition écologique, qui est un dispositif nouveau qu'on a mis en place l'an dernier. Eh bien, on a soutenu un dispositif qui s'appelle Déclic, qui est mené par le SMA et par la Fédélima, qui vise à du coup donner en fait à faire une typologie de 15 acteurs différents. Alors ça comprend des salles, des festivals, et ça comprend aussi, il me semble, des organismes de formation. Et ça vise à donner 15 typologies d'impact carbone de ces différentes structures. Ça permettra d'obtenir des données qui nous serviront après à voir où en fait on doit mettre le focus. Est-ce que c'est sur la mobilité des artistes? Est-ce que c'est sur la mobilité des spectateurs? La mobilité des équipes? Pour le moment, ce qu'on observe, c'est que la mobilité des équipes, c'est pas forcément un grand problème sur les salles qu'on a avec lesquelles on dialogue. C'est pas le principal problème. Le covoiturage, on peut en mettre en place dans une équipe. Souvent, quand c'est en centre-ville, dans un lieu et que les personnes habitent ce centre-ville, il n'y a pas trop de soucis. Les deux points qui ont été nommés, c'est mobilité des spectateurs, mobilité des artistes. Sur la mobilité des spectateurs, un enjeu, c'est en fait la taille d'un événement par rapport à son bassin de population. Et donc ça, c'est voir aussi comment on réadapte et comment en fait les événements s'adaptent à leur bassin de population pour réduire la part de transports modaux qui sont conséquents, c'est-à-dire avion, parce que des fois sur des gros festivals, des gens viennent en avion, voiture, et comment on peut réduire. On a des très bons exemples sur des festivals qui ont déjà considérablement réduit, sans avoir fait des grandes études d'impact, la part de spectateurs qui viennent en voiture, en mettant en place soit covoiturage, mais c'est pas forcément ce qui marche le plus. C'est des fois, et donc c'est pas le cas d'une salle, hein, c'est plus sur qu'un festival, donc d'un événement qui se déroule en 2-3 jours, c'est de mettre en place des transports collectifs en lien avec une région. Et donc ça peut être des bus affrétés de manière privée ou de manière publique. Ça peut être du coup un lien avec la région sur les TER. Ça peut être tout ce genre de choses, ou d'encourager en fait des formes de mouvements collectifs de spectateurs pour se déplacer, faire une course en vélo pour arriver au festival. C'est ce que fait Pete the Monkey par exemple en Normandie. Et pour aller plus loin, parce que je prends Pete the Monkey parce que c'est un très bon exemple, parce qu'on va travailler nous sur des dispositifs assez innovants avec nos partenaires locaux en Normandie. Ça c'est un dernier point. Le CNM, en fait on a plusieurs moyens d'action. Donc on a des aides qui sont de manière nationale. On a des dispositifs de ressources qu'on utilise pour plein d'acteurs à l'échelle nationale, mais on a aussi la particularité de travailler avec des acteurs locaux sur ce qu'on appelle les contrats de filière. On a un contrat avec la ville de Paris notamment sur un dispositif d'accompagnement des salles sur Paris. On a un contrat de filière en Normandie avec la région, donc la région Normandie, mais aussi avec un nombre de départements, je n'ai pas le nom précis, mais à certains départements, certaines même collectivités de type métropole, et l'administration déconcentrée du ministère de la Culture, à savoir la DRAC, qui est la Direction régionale de l'Action culturelle, si je ne dis pas de bêtises.
Direction régionale des affaires culturelles.
Des affaires culturelles, pas de l'action culturelle, affaires culturelles, je confonds toujours, mille excuses. Et donc, dans ce contrat de filière, ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs font un pot commun et vont subventionner selon les besoins, sur de la structuration, sur des choses différentes. Dans le cas de ce contrat de FIRA-là, c'est paru, il me semble, la semaine dernière, ou il y a 3 semaines, il a été mentionné un appel à projet à des festivals, donc pas encore des salles, mais ça viendra, peut-être pas sur cet appel, mais j'ose espérer que ça viendra sur d'autres, à des festivals sur les questions de mobilité. C'est-à-dire, on va demander à chaque festival, on va faire une étude sur vos problématiques de mobilité pour voir comment, après, potentiellement, la région peut agir pour organiser une mobilité des festivals sur son territoire. Et c'est ça l'échelle pertinente sur la mobilité. C'est souvent le territoire. Et j'étais un peu long. dispersé, je crois que c'était...
Non, c'était... C'est, enfin, moi, ça m'a semblé clair, en tout cas. Et c'était, c'est important, effectivement, que tu pointes... voilà, les, il y a différentes échelles d'action, et comme tu le disais, à votre échelle, en fait, de structure, et ben, on se heurte vite à une incapacité, ou en tout cas, à voilà, de, d'autres... Enfin, ça dépend notamment aussi des infrastructures, effectivement, du territoire, etc. Donc, d'où le besoin, en tout cas, de mobiliser à une échelle plus large. Olivier, sur la question de la mobilité, on s'en parlait juste avant, du coup je me tourne vers toi, mais je sais que c'était aussi quelque chose, enfin, de par les projets à l'international que vous menez avec Mangrove, je sais que c'était aussi une question à un moment. Comment est-ce que vous vous emparez de cette thématique-là ?
Alors oui, sur la mobilité, nous on touche à deux problèmes de mobilité. Le premier, c'est celui des artistes, parce qu'on travaille avec des artistes internationaux, et puis après, la mobilité des équipes. Nous, on ne fait pas de concert, enfin, on va faire un premier concert là, à Arles. On est une toute jeune structure, donc on commence. Sur la mobilité des artistes, déjà, en fait, il y a un principe, par exemple, j'en parlais avec Samuel Valenzi dans une conférence il n'y a pas longtemps.
C'est Samuel Valenzi qui travaille pour le Shift.
Voilà, qui a été le rapporteur du rapport Décarbonons la culture. Par exemple, on va avoir une tendance, là j'ai un exemple concret, demain je travaille avec Gaëtan Roussel donc sur un titre, c'est pour en gros la replantation de la côte oubliée dans les forêts de Nouvelle-Calédonie. Alors un, on ne va pas se déplacer en Nouvelle-Calédonie, on ne va pas exploser notre empreinte carbone. On va avoir une tendance à travailler avec notre équipe, avec un réalisateur là-bas, et en fait à vraiment conduire, driver le truc. On a des outils en ligne pour le faire, donc c'est vraiment aujourd'hui tout à fait possible. En amont, on crée une charte très précise de ce qu'on veut, la manière dont on veut présenter les choses. Alors c'est vrai que nous, on développe des titres, mais on développe derrière des clips, des documentaires, enfin, etc., etc. Donc on a besoin en fait d'encadrer, je dirais, l'approche éditoriale. Et puis de l'autre côté, on va avoir plutôt tendance à faire venir un artiste qui viendrait de loin, qui a une faible empreinte carbone, parce qu'en fait il y a aussi ça, c'est-à-dire que par exemple nous dans nos pays occidentaux on a eu une tendance à se déplacer beaucoup, etc. Et donc si vous ramenez en fait un artiste ici connu à son empreinte carbone, enfin j'ai pas envie de te ramener l'empreinte carbone parce que je pense que c'est très, très restrictif, mais je dirais qu'on pourrait se dire, ben voilà, par exemple, je sais pas, moi j'ai Sting en Angleterre, je vais le faire bosser avec un artiste de Nouvelle-Calédonie. Sting s'est déjà beaucoup déplacé, faisons venir cet artiste là depuis la Nouvelle-Calédonie en Angleterre, et en fait on va maîtriser de ce point de vue-là l'empreinte carbone, parce que c'est vrai que la musique, c'est aussi une histoire de rencontre. Il ne s'agit pas non plus de travailler à distance. Alors, il y a des initiatives qui le font super bien, mais on peut aussi voilà, gérer les choses comme ça. Par ailleurs, par exemple, l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, là, nous, on a, dans les titres qu'on fait, on en a fait un Kyusufa dernièrement, on a une tendance à... donc chaque titre en fait est incarné par un projet sur le terrain, la régénération des mangroves, etc., etc. Et en fait dans le pays il va y avoir des instruments qui sont signifiants en fait de la culture du pays, et ça va être une manière d'ancrer le titre en fait dans cette culture du monde, sans faire obligatoirement de la world music, hein. On peut faire du rap, on peut faire plein de styles musicaux, on touche à tous les styles musicaux, parce que c'est montre-moi ta musique, je te dirai qui tu es, donc pour toucher le plus grand nombre. Et là, par exemple, on a travaillé avec des percussionnistes à distance qui nous ont enregistré les sons. Et en fait, on va nous-mêmes, parce que c'est pas, là, pour le coup, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette rencontre-là, en tout cas direct, tant qu'il n'y a pas de concert, on va faire ça en post-production. C'est-à-dire qu'on va faire tout l'enregistrement avec les équipes ici, et on va travailler en post-production sur les polyrythmies, par exemple. Donc on essaye vraiment au maximum de faire les choses comme ça. Après, il y a des moments, par exemple, là, je dois partir sur un projet au Liban, qui est un corridor de reconnexion de toutes les forêts au Liban. Et là, effectivement, vu qu'on travaille avec une chaîne de télévision, il y a besoin d'accompagner le documentaire, donc la partie documentaire, et d'être dans une narration. On a fait la même chose au Sénégal. Et dans ce cas-là, on va avoir tendance à embaucher une équipe sur le terrain, et puis moi je vais me déplacer seul sur le terrain. Voilà, donc c'est comme ça qu'on gère les problèmes de mobilité.
Ok, merci.
On fait de notre mieux. Hein, bon.
Non, mais en tout cas, c'est, je pense qu'effectivement c'est important de dire que en fait c'est pas supprimer la rencontre, mais la repenser ou en tout cas la réfléchir à l'aune de ces enjeux-là.
Il y a des contraintes, mais la transgression, c'est l'art d'intégrer un cadre pour mieux l'exploser, hein, ou le dépasser. Donc on essaye de fonctionner avec ces contraintes-là, en étant conscient, par contre, de ces contraintes et en faisant de notre mieux.
Ouais. Des contraintes qui peuvent rendre plus créatif. En plus.
Bah en plus, c'est un élément de la créativité.
Tout à fait. Juste pour terminer un peu sur le débat plutôt concret qu'on a commencé à avoir, parce que je pense que c'est une question qui, en tout cas au vu du contexte, c'est difficile de passer à côté, la question de l'énergie. Alors je me retourne vers Virginia qui est ma référente lieu aujourd'hui. Est-ce que c'est un sujet, alors j'ai cru comprendre de par notre discussion tout à l'heure que effectivement c'est assez critique pour vous. Comment est-ce que vous l'abordez et quels sont les freins pour toi à cet endroit-là, et peut-être que Maxime aura aussi des choses à compléter là-dessus, notamment en termes d'accompagnement. Je sais que pour le CNM, c'est un.
J'en aurais, mais j'avais aussi un petit. Si je pouvais me faire un petit truc sur la mobilité pour finir.
Bien sûr, vas-y.
Parce que je pense qu'on a parlé mobilité. Moi, j'ai pas parlé au final du deuxième enjeu qui était mobilité artiste, vu du côté du CNM. Mm-hmm. Et parce que ça, c'est quelque chose qui vraiment nous tient à cœur. Et on a un projet qu'on voit arriver, qui est mené par le Périscope en France notamment, sur un projet européen de circulation internationale du spectacle, qui suit un autre projet qui avait été et qui va s'appeler Better Life, ce projet en l'occurrence. Et c'est un projet qui a été soutenu par l'Union européenne et qui vise à plusieurs établissements qui ont déjà fait leur bilan carbone pour voir comment on peut faire circulariser, on va dire, des artistes à l'international en Europe et trouver la bonne échelle pour pas empêcher non plus le développement des rencontres culturelles, donc être en lien avec ça. Et un dernier point sur cette question vraiment de la mobilité des artistes, il y a des choses hyper intéressantes qui se passent en ce moment, donc plutôt sur une esthétique électronique, musique électronique, qui a été menée à l'initiative de Technopole et du collectif des festivals, sur lequel donc un collectif qui défend les artistes s'appelle Music Declares Emergency, que je pense certains d'entre vous ont entendu parler, s'est rajouté. Donc ils sont trois maintenant à travailler sur ce projet de circuit court festivalier, circuit court artistique, pardon, c'est pas que sur les festivals, mais sur les salles aussi. Et ça, c'est expérimenté actuellement en région Bretagne. Tout à fait. Et du coup, ça va être intéressant de voir les résultats, de voir qu'est-ce qu'il en sort, parce que ça suit aussi la démarche qui était auparavant d'artistes qui se posaient des vraies questions. Simosel, en 2020, il se pose une vraie question dans une tribune qui publiait, il me semble, sur Libération, où il se dit. Ok, c'est le Covid, du coup je peux plus tourner, mais en fait je me suis rendu compte que mon modèle, moi en tant que DJ, c'était n'importe quoi. J'allais faire une date à Tokyo, je repartais à Paris, je repartais à Londres, et du coup il n'y avait aucun sens à ce que je faisais. Et du coup il a entamé cette démarche, mais qui a eu un écho monstrueux chez plein d'autres DJ, se dire en fait comment on rationalise nos tournées, comment on fait en sorte de toujours gagner notre vie en tant que DJ et en tant que producteur de musique, parce que en fait notre argent il vient de la date. Comme beaucoup d'artistes et dans beaucoup d'esthétiques, c'est ça qui fait revenir l'argent. Mais comment je fais par rapport à mon engagement écologique? Comment je réconcilie les deux? C'est ça tout l'enjeu en fait. Et donc ça, c'est typiquement le genre d'initiative que nous, on va encourager et qu'on supporte pour voir comment on peut faire en sorte de mettre aussi autour de la table artistes, qui sont les premiers concernés, mais les tourneurs aussi, qui sont engagés, et les lieux. Et donc on va se poser des questions aussi qui ont déjà été abordées lors d'autres conférences sur, par exemple, les clauses d'exclusivité.
Absolument.
Et sur ce genre de choses. C'était juste pour compléter, parce qu'à mon avis, c'est aussi un angle qu'il faut avoir sur mobilité. Voilà.
Je peux rajouter une petite chose là-dessus, parce qu'en en fait, on a fait un podcast, je vous invite à l'écouter, qui s'appelle Music with a Cause, avec Fakir et Romain Vivien de Believe Digital, où on a parlé du CO2, de l'empreinte carbone de l'industrie musicale, donc avec les deux grands volets, le volet streaming, en fait, le volet, on va dire. Cloud, on va appeler ça comme ça, et puis le volet mobilité. Et sur le volet mobilité, il y a eu toute une discussion effectivement sur ce problème qui est le problème des clauses d'exclusivité, qui est plus largement aujourd'hui les modèles économiques des festivals, la course après les concerts, la dégradation des revenus des artistes liés au streaming. En fait, il y a vraiment une relation qui est très très forte entre les deux. D'ailleurs, je pense que là, il y a un vrai travail à faire qui est plutôt systémique, en fait, qui est un travail d'encadrement sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, on en reparlera peut-être après sur les récits, parce que les récits peuvent vraiment travailler là-dessus. Et c'est vrai que c'est complètement délirant de voir qu'un artiste international va venir dans un festival et ne va pas avoir le droit, alors un festival, je sais pas moi, en Bretagne, et va pas avoir le droit d'aller en fait dans les petits concerts, festivals locaux, parce qu'il a cette clause d'exclusivité et il va partir de Bretagne, je ne sais pas où, à Oslo, ou, etc. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, je pense qu'on est vraiment là dans le cœur du sujet, qui est un sujet économique et politique. C'est-à-dire, c'est comment on construit en fait, les écosystèmes pour qu'ils soient, je dirais, conscients, fertiles et ancrés en fait, dans les sujets de qui font société aujourd'hui.
Complètement. Et comment est-ce qu'on change aussi les dynamiques de... Enfin, comment passer d'une dynamique plutôt de concurrence à...
De coopération.
À la coopération, oui, tout à fait.
Absolument.
Qui était une logique qui existait déjà, une logique de coopération, oui, entre programmatrices et programmateurs de lieux. C'est juste qu'il faut peut-être... Et qui sont en ce moment, ils se posent les mêmes questions, ces acteurs-là, pour voir comment repenser aussi leur mode de faire.
Donc, mais ça touche toute la chaîne de valeur, en fait, pas seulement en fait les organisateurs de concerts, les labels, les éditeurs. Enfin, c'est toute la chaîne de valeur de l'industrie musicale qui, en fait, part, comment dire, en reliant les éléments les uns aux autres, bah, tu arrives à ce type de problème. Enfin, moi, je me permets de le dire comme ça, hein, parce que c'est la réalité. Je découvre cette industrie parce que j'étais pas de cette industrie avant. Donc, c'est des petits points comme ça qu'on voit bien s'éclairer.
On arrive de toute façon à la fin, à chaque fois, à une échelle systémique et à des réflexions vraiment globales qu'il faut avoir. Et du coup, je retente juste ma question liée à l'énergie, parce que voilà, je pense que c'est quelque chose qui est un peu central et qui apporte pas mal de tensions là au vu du contexte. Du coup, est-ce que très rapidement, en quelques minutes, pour qu'on puisse continuer aussi avec les autres questions, mais voilà, je te laisse témoigner de là-dessus.
Alors du coup, très rapidement, pour nous, au niveau du plan, comme on a une structure qui appartient à une agglomération, c'est un petit peu compliqué d'avoir la main sur l'énergie. Après, le bâtiment, il est quand même assez récent. Il est 2014, donc il a déjà des choses un petit peu mises en place et qui aident à restreindre notre consommation énergétique. Mais c'est vrai que comme on est englobé dans un processus d'agglomération pour tout ce qui va être travaux ou autre, c'est long, en fait. Voilà. C'est pas impossible, mais c'est long et il faut prendre son mal en patience. Après, il y a quand même quelques petites choses qui ont été mises en place, et notamment au moment de la construction, vraiment en 2014. Donc on a, par exemple, des détecteurs de présence pour les lumières. Donc il est possible parfois, quand on est derrière notre bureau, que les lumières s'éteignent parce qu'on n'a pas bougé pendant un certain temps. Mais au moins, ça permet de, voilà, d'être sûr que lorsqu'il n'y a plus personne dans une pièce, la pièce sera éteinte, c'est certain. On a également des robinets à arrêt automatique. Donc pareil, l'arrêt d'oublier de fermer notre robinet, ça nous arrive à tous. Donc là, c'est des petites choses qui ont été mises en place. Et au niveau de la maîtrise aussi de la consommation, on est passé sur des luminaires pour les salles de concert plutôt LED. Donc on a changé un petit peu notre parc d'année en année, notamment par de la consommation LED. Il y aurait plein de belles choses à faire encore sur notre bâtiment, mais comme je dis, malheureusement, on n'a pas trop la main. Mais on essaye quand même de rester mobilisé pour trouver des solutions.
Merci. Est-ce que là-dessus, le CNM accompagne ou propose des...
Alors, sur l'énergie, c'est un des autres enjeux évidemment identifiés. Et donc, le CNM accompagne, il va accompagner les lieux aussi. Je m'explique. Déjà, on accompagne tout le monde parce qu'en fait, on va subventionner des projets, comme j'en parlais tout à l'heure, Déclic, ou de la subvention sur des associations qui œuvrent. Donc, via Arviva, on a subventionné aussi, qui a développé un formidable outil qui s'appelle Seeds, que je vous encourage tous à tester. Donc, je fais beaucoup de pubs pour Arviva aujourd'hui. Mais bon, voilà. Il y a aussi un projet qu'on soutient qui est en cours, qui n'est pas quelque chose de public, mais qui a eu des premières concertations, qui est développé par deux structures qui sont en train de fusionner, qui sont Interne-Externe, qui est un opérateur qui fait des concerts, qui fait tourner et qui fait plein d'actions sur Marseille, qui fait notamment le festival Avec le Temps. Et du coup, Interne-Externe et Blockchain My Art, Fairly, qui est une structure, Blockchain My Art, qui a été créée par des organisateurs de spectacles qui faisaient les siestes électroniques notamment, et qui visait en fait primordialement à identifier, ça pourrait s'appeler blockchain, mais maintenant ça a changé, en fait les consommations, et par exemple quand vous étiez dans un bar, je vais prendre une bière dans un bar, et ça me disait, alors c'est pas moi, ça me disait... d'où venait en fait et d'où, comment était réparti l'argent que je versais pour ces, par exemple 7 euros de bière que je consommais. C'est-à-dire il y en avait 3 euros qui allaient revenir en fait à la brasserie, etc., etc. Donc c'était quelque chose d'observation des flux financiers, et là ça va se transformer, ça veut se transformer sur de l'analyse d'événements, et qui prennent en charge aussi les analyses énergétiques. Et ça s'appuiera sur une autre initiative qu'on accompagne aussi via notre aide, qui s'appelle SOWAT, et qui va être déployée sur les événements pour mesurer la consommation énergétique réelle des scènes ou des différents parcs. Et ça va être hyper intéressant, parce que souvent ce qu'on observe, c'est sur les événements il y a un surdimensionnement en fait de l'équipement, c'est-à-dire qu'on prend toujours trop gros, parce que sur les fiches techniques on nous demande toujours trop gros, alors qu'au final dans les faits réels et sur la consommation réelle on est bien en dessous. Et donc c'est une vraie problématique, pourquoi surdimensionner, pourquoi on ne pourrait pas être sur des modèles plus sobres. Donc c'est l'initiative SOWAT qui est en cours. Et le volet plus concret qu'on va lancer cette année, c'est un plan d'investissement pour les lieux de diffusion et les festivals. C'est un plan qui va être doté de 33 millions d'euros, qui va avoir deux phases. Une phase qui va être lancée là très prochainement sur de l'aide au diagnostic. Donc les salles de spectacle et lieux de diffusion vont pouvoir demander cette aide pour faire un diagnostic sur ce qui les intéresse, notamment l'énergie. Et donc ça va être très important pour avoir de la donnée, ce que j'en parlais encore tout à l'heure, toujours avoir de la donnée avant de pouvoir aller quelque part, avant de pouvoir faire une vraie trajectoire de transition écologique. Donc ça c'est important. Et la deuxième phase, du coup, ça va être de l'investissement sur la base d'identification des besoins que le diagnostic aura permis. Et là on fera une fin d'investissement assez importante. Pour l'instant, ce fonds, il est réparti entre... Donc de 33 millions d'euros, il est de 33 millions d'euros. On vise aussi à l'élargir. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a obtenu via France 2030. Déjà, c'est déjà important. Et ça va nous permettre d'accélérer et d'aider les lieux sur leurs besoins de transformation.
Super, merci. En tout cas, c'était, enfin voilà, ça permet de voir quand même que les différents postes d'émission et sur lesquels agir sont globalement identifiés, et que se construisent petit à petit tout autour des pistes d'action, des moyens d'accompagnement, etc. Je voulais partir de ce sujet-là pour souligner aussi que en fait on peut tout à fait, enfin on peut trouver des financements, enfin petit à petit effectivement se met en place une forme d'accompagnement, mais que il y a aussi la question humaine derrière aussi. On revient en fait aux équipes, au changement de comportement, voilà, qui fait que en fait peut-être toi de ton côté c'est parfois difficile de dire aux artistes que en fait il n'y aura pas de coca dans les loges, peut-être que voilà, il y a aussi dans les équipes des leviers à activer pour justement essayer d'y aller de manière collective. Voilà, si tu pouvais peut-être très rapidement faire un retour là-dessus, et puis ensuite j'aimerais bien que Olivier nous fasse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les freins à levier.
Donc effectivement, l'idéal c'est de communiquer, sensibiliser, de parler avec les équipes, appeler le tourneur, le producteur, pour lui expliquer que non, il n'y aura pas de coca dans la loge, ni au bar, parce que des fois ils se disent ah, on n'en a pas dans les loges, mais il y en aura au bar. Non. En fait, c'est vraiment de sensibiliser, de parler avec les gens. 90% du temps, ça se passe super bien. C'est comme une lettre à la poste. Je pense qu'on n'est pas les seuls, en plus, maintenant, à développer ça. Donc, en fait, c'est plus une surprise complètement. Il faudra aussi communiquer en interne parce que le changement, en fait, ça fait peur. Et quand on n'est pas habitué, quand on n'est pas sensibilisé de base, d'avoir un petit peu les collègues qui viennent nous expliquer que maintenant, ça va se passer comme ça, alors qu'avant, c'était différent, c'est pas toujours facile à appréhender. Et en fait, c'est juste s'habituer au changement. Donc pareil, il faut accompagner, co-construire les choses, parler et comprendre la peur de l'autre, en fait, je pense. Et après, je pense qu'au bout d'un moment, quand on a bien parlé, bah, faut faire les choses. Et là, nous, on est en grosse discussion. Du coup, j'en ai pas trop parlé tout à l'heure, mais je reviens un petit peu dessus au niveau des repas. On est en grosse discussion pour proposer un maximum de repas en fait végétariens. On propose quasiment déjà plus de viande rouge, mais de vraiment aller sur des repas complètement végétariens. Aujourd'hui, on a des réticences. Je ne peux pas dire que 100% de l'équipe est toujours OK avec toutes les choses qu'on imagine, toutes les actions qu'on aimerait mettre en place, mais on y travaille. On parle, on discute, on explique pourquoi. À savoir qu'aujourd'hui, on peut avoir notamment des repas moins chers parce qu'il n'y a pas de viande ni de poisson dedans. Donc, pour moi, c'est vraiment le... On y va à notre rythme, on discute, on co-construit la chose, on essaie du coup de partager ses valeurs parce que moi, je vais être très convaincue, mais le voisin, pas forcément. Et on sensibilise un maximum. Et au bout d'un moment, quand on se dit qu'OK, la sensibilisation, elle a été faite, on passe à l'action. Et on essaye, en fait. Et sur des exemples très concrets, on a eu des super réussites, nous, au plan, où on a fait notamment un festival sur 3 jours avec 0 viande. Ça a un petit peu râlé, mais finalement, c'est très bien passé et tout le monde était content.
Super. Et je pense que toi, justement, ça, peut-être que... Olivier, tu peux réagir parce que étant en première ligne de la mobilisation, pour le coup, plutôt des artistes, encore une fois, et du public aussi, je suppose que sur voilà, ces biais cognitifs aussi à faire évoluer, tu as peut-être.
Oui, on est déjà dans un monde d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire, quand on dit d'un côté consomme, consomme, je consomme, donc je suis, puis de l'autre côté, on me dit faut être sobre, tu vois, c'est vrai que ça crée un petit bug cognitif. Alors, moi, je vais remonter au niveau peut-être déjà scientifique. C'est-à-dire, il y a des études qui ont été faites par l'ADEME, par plein d'organismes scientifiques sur les scénarios, les récits, les types d'imaginaires en fait, qui sont diffusés dans la société. Et on va prendre les récits, on va dire, depuis l'après-guerre, c'est-à-dire depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Le premier récit, c'est... Et d'ailleurs, on a fait une conférence il n'y a pas longtemps avec Magali Payen, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui a le collectif On est prêt, qui a créé une Utopia, qui est un peu au cinéma, il a créé ça avec Cyril Dion et Marion Cotillard. Ce que nous, on fait avec la musique, nous, on a créé ça avec Manu Katché, avec Eric Bellamy, pour ceux qui connaissent, qui est issu du milieu du hip-hop. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un récit dominant et qui est transgénérationnel, qu'on n'arrive pas à dépasser, qui est, je vais la jouer comme ça, le cow-boy Marlboro, je consomme donc je suis, le rêve américain, etc. Donc je consomme donc je suis. C'est-à-dire en gros qui pousse, et d'ailleurs on le voit dans la publicité, par des stimuli X et Y à l'hyperconsommation. Et puis, donc ça c'est le premier archétype de récit qu'on voit et d'imaginaire qu'on voit dans la société, avec des injonctions contradictoires. Le deuxième c'est la technologie va nous sauver. D'ailleurs c'est assez drôle parce que j'ai remarqué un truc, c'est quand on regarde un peu la sémantique, le signifiant, les signifiants des mots, en fait le mot innovation a remplacé le mot progrès au XXIe siècle. On ne parle plus beaucoup de progrès. Et pourquoi ? Parce que le progrès c'est l'innovation avec du sens. Et vu qu'on est dans une société qui est en quête de sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en perte de repères, en fait, qui ne comprennent pas bien du fait des injonctions contradictoires, qui n'arrivent pas à se projeter dans cette société, ben en fait, on est dans un truc où on parle d'innovation de rupture. Alors, franchement, je viens de cet univers, j'ai travaillé chez Apple il y a des années, donc moi j'ai fait mon coming out écologique il y a une dizaine d'années, mais voilà, on n'est pas obligé, on n'est pas obligatoirement en train de construire en fait de l'innovation pour le progrès. On peut construire aussi de l'innovation pour disrupter, on appelle ça la disruption des marchés, comme l'ubérisation de la société ou d'autres choses comme ça. C'est-à-dire, alors évidemment, il y a d'autres formes d'innovation qui sont des innovations très fertiles et qui peuvent amener évidemment des grandes avancées dans la société. Mais on n'appelle plus ça progrès, on appelle ça innovation. Et donc la technologie va nous sauver, ça peut donner des trucs du genre, enfin moi j'ai vu des scénarios absolument hallucinants, hein. On va balancer des bombes de soufre quand il y aura trop de soleil pour nous protéger des rayons qui nous tuent, et le jour où il n'y a plus de bombes de soufre, il se passe quoi, quoi. Enfin bon, c'est des trucs complètement délirants. On le voit aussi avec la recherche, quitter la planète pour aller chercher des ressources ailleurs. Enfin, il y a plein d'imaginaires comme ça, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans la science-fiction, on est plutôt sur des dystopies que sur des utopies. On est plutôt sur des choses en fait qui sont la fin du monde, des constructions en fait assez qui respirent l'air du temps. Et puis il y a un troisième archétype de récit. Et encore une fois, moi, je n'ai pas de jugement sur ces récits-là. Je vous dis juste les choses comme elles sont perçues dans les études et qui sortent des études. C'est la sobriété. Alors, la sobriété heureuse, la sobriété généreuse, la sobriété raisonnée, la sobriété engagée. Mais en fait, la sobriété, pour prendre un terme musical, elle vient en contrepoint, d'une certaine manière, d'un excès qui est lié à l'hyperconsommation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu d'hyperconsommation, on ne parlerait pas de sobriété aujourd'hui. Et en fait, c'est super compliqué de dire à des gens attends, il faut que tu sois sobre, alors que tu as en même temps des compagnies qui polluent énormément, qui font d'énormes bénéfices, etc. Il faut savoir que, par exemple, sur l'empreinte carbone, on a beaucoup parlé d'empreinte carbone, mais en fait, la plupart des émissions de carbone, pour l'ordre de 70 à 80%, ce sont les grandes entreprises qui polluent, c'est pas les... et c'est aux personnes qu'on demande d'être sobre avant tout. Donc ça c'est quelque chose qui arrive en contrepoint. Et pour continuer la métaphore musicale, je pense qu'il y a un sujet qu'on oublie un petit peu, c'est que le vivant, en fait, et quand je parle du vivant, je parle de nous, mais je parle de la relation qu'on a à nous-mêmes, aux autres, aux vivants, c'est-à-dire à la nature, aux autres êtres vivants qui sont les animaux, mais aussi les non-vivants, enfin, on les appelle les non-vivants, mais ils sont vivants, qui sont autour de nous, qui est une question en fait, fondamentale, qui est la question de l'harmonie du vivant. C'est-à-dire qu'on ne parlerait pas de sobriété si on était harmonieux nous-mêmes avec le vivant. Il y a des phénomènes de régulation depuis la construction de toute chose du vivant jusqu'à maintenant qui se sont faits par des phénomènes d'adaptation qui sont très complexes, très harmonieux et en même temps très fragiles. Et d'ailleurs, la planète sur laquelle on vit, elle est ultra puissante parce qu'elle nourrit presque 8 milliards d'êtres humains, mais aussi des milliards et des milliards d'êtres vivants. Elle est très belle, il suffit de s'arrêter, de la regarder. Et c'est pas facile toujours de s'arrêter quand on est en permanente projection sur le futur et sur des fantasmes. En fait, on est dans une société aujourd'hui qui est une société qui est beaucoup sur des projections. D'ailleurs, ça aussi, c'est un élément en fait de problématique cognitive, puisque en fait, la peur de mourir, c'est pas un truc qu'on a l'habitude de regarder en face. Et puis, elle est fragile, et on le voit, c'est-à-dire que le moindre petit truc, le petit moindre grain de sable sur la planète, ben, en fait, ça crée des déséquilibres et les déséquilibres qu'on voit aujourd'hui. Alors, sur les récits, donc pour revenir aux récits, moi, je pense que l'industrie musicale, en tant que industrie de l'entertainment, je ne dis pas divertissement, parce que dans divertissement, il y a le côté divert, je me détourne de quelque chose, mais d'entertainment a, je dirais, un asset, comment on dit, une force qui est extrêmement puissante, qui sont ce que j'appelle, moi, en Afrique, on appelle ça les griots, c'est des louangeurs, des généralistes, les gens qui ont pour rôle de transmettre, en fait, les savoirs. Et les griots du 21e siècle, ce sont les artistes. Et notamment dans le milieu du hip-hop, du rap, en fait, on a des artistes qui ont la capacité à générer une musique des mots et des savoirs et à les transmettre pour faire ressentir le monde aux gens, pas obligatoirement par des peurs, mais montrer la beauté et la fragilité du monde, je vais être un petit peu poétique, voire être aussi artiviste, c'est-à-dire se battre contre des choses qui ne sont pas justes, pour pouvoir déjà faire ressentir aux gens ce qui se passe. Et après, nous, c'est ce qu'on essaye de faire hein, à travers les imaginaires qu'on veut développer. On n'est pas obligé d'être violent pour dire quelque chose de dur. On peut le dire avec beaucoup d'esthétique, beaucoup de beauté, en le produisant très très bien. Et ça marche super bien. Et d'ailleurs, toutes les études cognitives, là, pour revenir aux sciences, le montrent très bien. Donc moi, je pense que l'industrie musicale, dans tous les styles musicaux, a, et là, je fais un appel à tous les acteurs, parce qu'en fait c'est de la coopération qu'il faut hein, entre tous les labels, tous les acteurs de cette industrie, c'est de travailler ensemble pour générer des nouveaux récits qui soient des récits qui nous fassent voir le monde d'une manière un petit peu différente, parce qu'en fait au bout du compte, le moment dans lequel on est aujourd'hui, ce moment de métamorphose, de, alors des gens appellent ça transition, mais c'est pas une transition, là aujourd'hui la transition elle arrive à un certain point, à des points de rupture qui font qu'il va y avoir des métamorphoses, ces métamorphoses elles sont là, ok, et il faut les voir comme elles sont, et en fait faire avec et construire avec pour pouvoir être beaucoup plus harmonieux avec ce qui se passe. Et donc je pense, et nous c'est ce qu'on essaye de faire chez Mangrove Music, c'est déjà de travailler sur l'acculturation, c'est-à-dire sur des résidences d'artistes thématiques. Donc là par exemple, on est en train de monter une résidence avec le milieu électro, mais on va le faire avec le milieu du hip-hop. Avec des artistes, on va faire venir des gens qui sont des scientifiques, des chamans. Parce qu'en fait, c'est les arts, les techniques, les sciences et la spiritualité. En fait, pas la spiritualité religieuse, mais c'est une façon de voir le monde, laïque, en fait, pour reconstruire du sens et donner l'envie à des artistes de se dire « Ah ouais, mais en fait, moi, je peux dire les choses comme ça et je peux bouger les gens. » Vous voyez, il y a un maître zen qui dit, qui parle sur la colère. Enfin, je fais cette image-là souvent parce que je travaillais avec un certain nombre de rappeurs là dernièrement. Et la colère, il dit, la colère, c'est comme une patate. Tu la prends, tu la croques, elle est dure, elle est amère. Mais si tu la mets dans la vapeur 15 minutes, en fait, tu la reprends, elle est douce, elle a un goût d'amande. Les plus grandes colères peuvent donner des grandes compassions. Hein. On a Gandhi, on en a plein qui nous ont montré ce chemin-là. Et en fait, moi, je pense que des artistes de rap, par exemple, qui sont très engagés sur des colères, qui iraient vers ce type de récit-là pour faire ressentir le monde tel qu'il est, avec toute sa beauté, toute sa fragilité, ça toucherait un maximum de gens. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est développer des récits sous forme de résidence des acculturés, travailler sur un processus créatif qui soit lié et incarné par des projets de régénération des écosystèmes, mais aussi en combattant des choses qui sont difficiles, genre, je sais pas moi, Total avec ICOP, qui est en train de faire un espèce de déplacer des populations Maasai, de tuer la biodiversité en Angola. Ils le font pas chez nous, mais c'est juste à côté et ça va générer des tonnes et des tonnes de carbone. Donc ça, on peut le faire, c'est ce que j'appelle de l'artivisme. Alors, il y a le récit de la régénération, d'être lié à des projets sur le terrain et de montrer la beauté du monde, mais il y a aussi combattre des choses qui ne sont pas justes pour continuer à vivre sur une planète. Et le vrai sujet, c'est pour nos enfants, moi j'ai deux filles, c'est l'habitabilité de notre monde dans les années qui viennent. Et je pense qu'on peut, et je pense que l'industrie musicale, et là je fais un appel à l'industrie musicale, je veux dire, c'est peu avec les artistes faire en sorte que ça devienne les griots du XXIe siècle et qui génèrent dans leurs œuvres des choses d'enfer hyper bien produites, qui touchent les gens dans des concerts, partout dans les médias, et qui fassent, et ça il faut pas le faire qu'avec la musique, il faut le faire avec les jeux vidéo, il faut le faire avec donc le gaming, il faut le faire avec des concerts, il faut le faire avec le cinéma, avec tous les moyens possibles pour développer des imaginaires, des nouveaux imaginaires, qui soient des imaginaires souhaitables, fertiles. Et ça ne veut pas dire parler que de sobriété ou d'écologie dans le sens, je dirais, politique du terme. L'écologie, dans ses racines, ça veut dire la science de la maison. L'économie, ça veut dire administrer la maison. Je ne vois pas comment on peut administrer la maison en la détruisant. Voilà.
Merci pour cet appel enthousiaste et ambitieux, parce que, enfin, en tout cas, c'est ce que je trouve que c'est assez intéressant de conclure là-dessus, qui est, en fait, on voit qu'au-delà de qu'il y a beaucoup de choses à faire vraiment à l'échelle individuelle, enfin, dans les pratiques, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent parfois être interprété ou perçu comme des choses un peu restrictives, de en fait modifier vraiment des manières de faire qui sont assez ancrées, mais qu'il y a aussi toute une comment dire, une possibilité pour la culture, la musique, enfin, et puis de manière plus générale, comme tu disais, d'être contributive. Et donc aussi, il y a une opportunité à cet endroit-là qui est réellement propre au secteur culturel, de porter aussi des messages qui permettent aussi de transformer et de transformer les comportements.
Ah bon, on a une place où on peut faire bouger la société, très clairement. Hein. Mmh. En fait, c'est vraiment une volonté culturelle, poétiser le monde. En fait, ce que nous, on fait aujourd'hui, on crée un espace pour ça. Mais Bob Dylan, à l'époque de la guerre du Vietnam, il y a plein d'artistes qui ont déjà fait ça plusieurs fois, à des moments difficiles de transformation. Et ils l'ont fait d'une manière absolument remarquable du point de vue de l'esthétique musicale.
Merci beaucoup. Il est déjà une heure avancée. Donc, on a fait un tour d'horizon, j'espère, en tout cas, des différents types d'acteurs et des formes d'engagement qu'il était possible d'avoir à l'échelle du secteur. Je pense qu'il est temps de clôturer. On a un petit peu dépassé le temps. En tout cas, je voulais vous remercier déjà d'être venu voir cette table ronde. J'espère que vous avez appris des choses. On est disponible, nous, là, juste après, si vous avez envie d'en discuter plus en avant. Merci à vous de m'avoir rejoint sur ce plateau pour discuter de ces enjeux-là. Je suis contente de voir que les choses changent et que voilà, peuvent se mettre en place des choses à l'échelle individuelle, mais il faut quand même qu'on privilégie aussi les changements plus globaux. Merci à La Place, encore une fois, de nous avoir invités, d'avoir programmé ce sujet-là. Et puis voilà, bonne suite de convention à tous et toutes. Et à bientôt.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La Place. L2P Convention en podcast. Rencontres, conférences et talks. Par La Place.